Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Isolde Sicard et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Terminus de notre série consacrée au transport. Après avoir suivi les voies fluviales sous l'Ancien Régime, assisté à la naissance du chemin de fer et des autoroutes, puis sillonné le Grand Paris, c'est sur un train de marchandises que nous embarquons aujourd'hui. Alors que la part du rail dans le fret ne cesse de reculer en Europe, le déclin du trafic ferroviaire est-il irréversible ? Faut-il aujourd'hui sauver les trains de marchandises face à la concurrence de la route ? Et est-ce seulement possible ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la guerre entre le rail et la route en compagnie de Patrice Salini, économiste des transports et auteur de Renouveau du fret ferroviaire en France, paru chez l'Harmattan. En compagnie également de Michel Savy, ingénieur et économiste, professeur émérite à l'université Paris-Est et auteur du Transport de marchandises, publié aux presses polytechniques et universitaires romandes. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
La gare de triage de Miramas, l'une des plus grandes de France, détient aujourd'hui un record mondial, le record de la rapidité du trafic des marchandises. C'est encore une victoire de l'électronique. Un petit émetteur radio de 3 kg a remplacé le carnet de pointage. Il suffit au pointeur désormais de lire la destination et la composition de chaque wagon qui sont enregistrés automatiquement par un magnétophone en même temps qu'est établi le bordereau. Plus de carnets exposés à être détrempés par la pluie, plus de pas inutiles. Toutes les indications sont enregistrées au moment où elles sont relevées. L'opération prend 10 fois moins de temps. De plus, la centralisation est immédiate puisque les indications sont instantanément retransmises au poste de commande chargé de former les convois et de les répartir sur les 40 voies qui les disperseront dans toute l'Europe.
Bonjour Patrice Salini et Michel Savy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on vient d'entendre l'extrait d'un reportage sur la gare de triage de Miramas dans les Bouches-du-Rhône, diffusé dans les actualités françaises en 1956. C'était l'âge d'or du fret ferroviaire, Michel Savy ?
Oh, par rapport à aujourd'hui, sans aucun doute. C'était une période où le fret ferroviaire transportait plus de marchandises mesurées en tonnes-kilomètres, qui est l'unité habituelle internationale, que la route. Son trafic continuait de croître jusqu'en 1974. C'était les Trente Glorieuses, c'était une croissance économique tous azimuts, mais avec encore beaucoup d'industries lourdes, aussi de construction, et une agriculture puissante, une énergie non nucléaire qui faisait circuler des trains de charbon ou de fioul. Donc oui, c'était un moment de puissance du chemin de fer où il faisait vraiment partie du squelette de base du système de transport de marchandises en France.
Depuis cette période, la part du rail dans le transport de marchandises n'a cessé de reculer. 2/3 des marchandises étaient transportées en train en 1950 et c'est un chiffre qui est tombé aujourd'hui à 10%, Patrice Salini.
Oui, 10% à peu près et ça fait un moment que ça tourne autour de 10%. Les choses sont encore détériorées au-delà de, j'allais dire, la désindustrialisation lourde. Enfin, on a effectivement fermé une grande partie des activités de production lourde, sidérurgique par exemple. On l'a déplacé au bord de l'eau, donc moins de marchandises à transporter en transport intérieur classique. Mais depuis en particulier la crise des subprimes, on a en plus une baisse de la production manufacturière. Et une baisse qui n'a pas cessé pratiquement, puisqu'aujourd'hui on est à peu près stable, alors que les Allemands ont repris ce qui avait été perdu à l'époque. Donc c'est pire encore que la simple disparition des produits lourds.
Et ce qui est intéressant, vous l'avez dit, la route a dépassé le rail en part de marché juste avant le choc pétrolier de 73, et même l'explosion des cours du baril dans les années 70 n'a pas modifié cette tendance, ou presque, Michel Savy.
Oui, parce que d'abord quand on a pris des habitudes, qu'on a adapté son usine ou son entrepôt au rail, changer, c'est difficile. Mais une fois qu'on a changé, revenir en arrière est à nouveau difficile. Donc il y a une sorte d'effet cliquet. malheureusement, quand on a perdu des parts de marché pour le ferroviaire, remettre en service un embranchement, comme on dit, c'est-à-dire une voie de ferrée particulière qui vous relie au réseau principal, recruter à nouveau des compétences, louer à nouveau des wagons si on n'en a plus, c'est une décision lourde et il est rare. Mais il y a des exemples tout récents, j'entendais le patron d'une entreprise qui fait de l'eau en bouteille, dans des bouteilles vertes un peu dodues, qui expliquait que récemment, ils avaient décidé de revenir au rail entre leur source et le port de Marseille, et ça fonctionne. Mais il faut beaucoup d'ambition, réunir tous les acteurs, déminer à chaque instant les obstacles qui s'opposent à la constitution d'une chaîne robuste. Alors, donc revenir en arrière, c'est rare.
Alors il y a des contre-exemples, on l'entend, mais globalement on peut dire que le fret ferroviaire stagne un peu partout en Europe, au-delà de la France, sauf en Allemagne et en Suisse.
Oui, enfin, il y a bien évidemment des raisons industrielles à tout ça. Mmh. Je veux dire, on est parti, nous, d'un modèle dans lequel la production manufacturière, la transformation des produits était relativement importante. La période des 30 Glorieuses, c'est quand même une période industrielle du point de vue d'économie française et européenne d'une manière générale. Depuis... grosso modo, le premier choc pétrolier, on est quand même, nous, en voie de désindustrialisation relativement plus forte que d'autres pays. L'Italie et la France sont un peu dans le même cas de figure. L'Angleterre était aussi un peu dans ce cas-là. Donc ça pèse directement sur le cœur de trafic du chemin de fer.
C'est ce qui explique qu'entre l'Allemagne et la France, là où ils étaient au même niveau en termes de trafic ferroviaire de marchandises dans les années 70, aujourd'hui l'écart s'est creusé, puisqu'en Allemagne on a 25% à peu près pour le fret ferroviaire contre 10% en France. Comme
on a évidemment une raison industrielle. Il y a aussi tout simplement l'orientation globale de notre économie. On est une économie fortement importatrice. Quand on importe, et notamment des produits manufacturés, on évacue de notre territoire toute la transformation de ces produits par conséquent. Donc on est effectivement de plus en plus une économie de distribution, de consommation, et moins une économie qui fabrique des biens. On fabrique plus de services qu'avant, bien évidemment, mais on fabrique beaucoup moins de biens proportionnellement à d'autres économies. Alors ça, c'est une différence fondamentale.
Et on dit aussi que le système de réservation du fret ferroviaire serait plus souple en Allemagne qu'en France. Ce serait aussi l'une des raisons, Michel Savy, qui expliquerait cet écart.
Oui, mais je reviens sur ce que dit Patrice, avec qui je suis d'accord. On n'est pas pour autant une économie immatérielle, comme il le dit. On le dit parfois. Bien sûr que le système d'information joue un rôle de plus en plus important. J'ai pas besoin de parler des GAFA, etc., et de l'usage qu'on en fait nous-mêmes dans nos vies personnelles à longueur de journée. Mais on peut calculer un indice de consommation matérielle par habitant. Tout ce qu'on fabrique en tonnes, tout ce qu'on importe, et on en soustrait tout ce qu'on exporte. Et depuis 10 ans, la quantité par habitant de produits physiques en tonnage par habitant en France n'a pas baissé. Et le coefficient de transport, le nombre de fois dans l'année où ils sont transportés, n'a pas baissé non plus. Donc le transport de marchandises, par extension la logistique, continue de jouer un rôle central dans notre économie. Peut-être même encore plus qu'avant, dans une économie, comme le dit Patrice, une économie de flux, une économie où on essaie de diminuer les stocks pour être le plus souple possible. Et donc la capacité d'avoir un mode de transport capable d'assurer ce transport de façon adaptée. Et c'est une des raisons du succès de la route. C'est plus facile d'ouvrir ou de fermer une liaison routière que d'ouvrir ou de fermer un sillon ferroviaire.
Alors on va reparler de la route, mais d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé là en France? Est-ce que l'une des raisons, ce serait que la SNCF n'a pas su s'adapter aux nouvelles marchandises transportées,
Michel? Je crois que c'est une des parts de l'explication. Effectivement, le chemin de fer reste aujourd'hui parce que ça ne disparaît pas, la technique la plus efficace pour un train complet de céréales, d'engrais, de produits chimiques, etc. Transporter même un wagon complet de téléphone portable, on comprend bien que ça devient rare. Hein, on met 50 tonnes de marchandises dans un wagon, on aura à la limite une palette complète, voire un camion complet de 20 tonnes. Mais un train complet de téléphone portable, ça n'existe pas. Donc cette capacité à ajuster des centaines, des milliers d'envois dans un seul train et puis de les redistribuer à l'autre bout, le chemin de fer n'a pas su le faire correctement.
Alors, je vous propose d'écouter une publicité de la SNCF pour le fret ferroviaire qui date de 1987.
Toute ma marchandise livrée avant jeudi matin à Hambourg? C'est pas possible.
Mais si c'est possible.
C'est ce qu'on va voir. Hein, papa?
Hé, tout ce que vous avez stocké la semaine dernière.
Oui.
Je l'emmène aussi. C'est pas possible, hein. Mais si c'est possible, regardez, vous allez voir. Allez-y!
Quoi? Pas d'arrêt en douane?
C'est pas possible.
Ja, das ist possible! Bon, alors là, je garde le train 24 heures pour décharger. Voilà.
Oui.
Je savais, vous allez me dire, c'est possible.
Ah, c'est pas possible.
Si, et c'est gratuit.
SNCF, c'est possible. C'est
juste. Voilà, alors malgré l'affichage de ses performances, la SNCF n'a peut-être pas été assez rapide, notamment dans le développement du ferroutage ou transport combiné qui associe la route au rail, Patrice Salini.
En fait, on a connu plusieurs périodes. On a connu une période où tout le monde avait envie de faire du transport combiné. Des routiers avaient compris que ça pouvait être utile, hein, parce que sur certaines liaisons, on allait plutôt plus vite, c'était commode, etc. Je me rappelle de liaisons sur Rungis, par exemple, depuis le sud de la France. Bon, ça a marché un certain temps, et je dirais le drame, c'est qu'on a même atteint des niveaux de trafic bien supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Je me rappelle d'une période qui était en gros la fin des années 90, oui. Où on avait quelque chose comme 2,5 fois le trafic qu'on a aujourd'hui, ce qui est compte tenu de l'évolution globale de l'économie, des trafics et des préoccupations écologiques, incompréhensible. Pourquoi ça s'est écroulé? Bon. Alors, il y a plein de raisons. Il y a une raison stratégique. C'est-à-dire que quand on dit ça a augmenté, en gros, du milieu des années 70 jusqu'au début des années 2000, ben, c'est pas faute d'avoir essayé de secouer la SNCF. Et parfois, la SNCF se faisait un peu traîner par les gens qui voulaient développer le transport combiné, quoi. Je veux dire qu'il y avait une difficulté d'appréhender le transport combiné rail-route comme une solution par rapport à la modification des flux, des types de marchandises à transporter, du type de clientèle, etc.
À l'heure actuelle, c'est 22% à peu près le transport combiné de tout, ouais, le transport ferroviaire.
À peu près. Enfin, moi,
et ça augmente
en gros,
doucement.
C'est 6 milliards sur 30 et quelques. Enfin, voilà.
C'est bien ça.
C'est à peu près ça. Ça n'augmente pas. Le drame, c'est que on en entend parler tous les jours. On entend parler, les politiques s'en emparent régulièrement, ça n'augmente pas. Bon, alors la question, c'est pourquoi? Alors, il y a des raisons de stratégie qui sont évidentes. Je crois que la SNCF a du mal à croire vraiment dans cette technique d'une manière générale, cette façon d'approcher le marché. C'est pas dans sa culture. Et d'expérience, pour avoir plusieurs fois dû négocier un certain nombre de textes avec eux, j'avoue que ça a été souvent un combat. C'était compliqué. Il y a d'autres raisons. Il y a des raisons techniques. Le transport combiné tel qu'il fonctionne aujourd'hui est pas adapté aux besoins.
Pour quelle raison ?
On met longtemps à manutentionner dans les chantiers qui sont en général mal fichus, c'est-à-dire qu'ils sont pas adaptés aux longueurs de train qu'on exploite. Donc on est obligé de couper les trains. On passe par des faisceaux de manœuvre. On doit souvent faire des manœuvres compliquées en marche arrière. On doit bien évidemment fonctionner en diesel pour passer ensuite en électrique. Et en plus, on n'a pas forcément les bons sillons, c'est-à-dire les bons créneaux pour rouler sur les voies. Et comble de malheur, en plus, on a des problèmes de qualité qui sont liés au mauvais entretien du réseau, qui sont liés à toute une série de problèmes bureaucratiques.
C'est ce que j'allais vous dire, les infrastructures aussi, le mauvais état des rails qui nécessitent des travaux de nuit, c'est-à-dire au moment où passent les trains de marchandises, c'est aussi l'un des éléments qui explique cette faible part du fret ferroviaire, Michel Savy.
Oui, on a fait le diagnostic au milieu des années 2000 que le réseau ferroviaire français se dégradait, et à un point tel que dans beaucoup de régions, il y a des ralentissements qui n'ont d'autre motif que de limiter le danger si on roulait trop vite. Alors, dès ce moment-là, une politique nouvelle de réinvestissement dans l'entretien a été déclenchée. Elle monte en régime. On est passé de 1 à 3 milliards par an. 3 milliards et demi, c'est beaucoup. Mais l'inconvénient à court terme, c'est qu'effectivement, c'est un obstacle de plus aux fret qui roulent la nuit. Car il faut faire des chantiers, évidemment. Si on fait des chantiers trop brefs, on met autant de temps à les installer et puis à les désinstaller qu'à travailler. Donc, il faut essayer d'avoir des plages le plus longs. Les plus longues possibles, et voilà. Donc, ce dont ne souffre pas le réseau allemand, parce qu'il est beaucoup plus maillé. Et donc, si telle voie est en travaux, il y a une voie parallèle qui permet de passer quand même, ce qui est plus difficile en France.
Alors, on n'a pas eu les mêmes politiques dans
Patrice Salini.
C'est-à-dire que je me rappelle quand on discutait de coûts d'usage des infrastructures ferroviaires, qui est un sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure. Les Français disaient, on n'a pas du tout la même approche de la maintenance. Les Allemands font largement de la maintenance préventive, ce qui fait qu'on a une moins grande variété de pièces, etc., etc. Et puis, bon, on s'embête pas, on programme les choses. En France, c'est un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué. On avait tendance à réparer plus qu'à prévenir. Et bah, évidemment, c'est difficile à prévoir, l'imprévisible.
Et alors, on entend quand même qu'il y a des moyens qui ont été mis. Mais la principale explication de cette faible part du fret ferroviaire aujourd'hui, c'est, comme on l'a dit, la concurrence de la route. Le transport routier est aujourd'hui moins cher que le transport ferroviaire. C'est ce qu'on entend habituellement, Michel Savy.
Oui, en règle générale. Pas toujours. Je veux dire que si vous avez un train de 1000, 1500 tonnes bien chargé, chargé et déchargé rapidement aux deux extrémités, qui a une rotation rapide, etc., et sur une distance suffisante, même avec les prix actuels de la route, vous êtes compétitif. Mais malheureusement, ça ne concerne pas tout le trafic.
Cette question des coûts, elle est évidemment très compliquée à évaluer. Il y a le coût d'exploitation qui, lui, se mesure peut-être facilement. En revanche, pour le coût des infrastructures, alors, c'est plus compliqué.
Deux remarques. On est dans des métiers d'exploitation. C'est-à-dire qu'en gros, on est en face d'une capacité qu'on essaye d'utiliser au mieux. Quand on est transporteur, le métier numéro un d'un transporteur, c'est d'utiliser au mieux sa capacité de transport et de faire des péréquations entre des bons et mauvais trafics. Tous les transporteurs du monde font ça, qu'ils soient maritimes, aériens, ferroviaires, routiers, etc. C'est un peu plus compliqué dans des grandes entreprises ferroviaires intégrées dans un réseau fermé, si je puis dire. Hein, puisque on n'a pas parlé non plus de toutes les disparités qui existent sur les réseaux nationaux et a fortiori entre réseaux des différents pays. C'est-à-dire qu'on a complètement loupé l'internationalisation des trafics.
On va y revenir.
Là où on l'a réussi avec le transport routier sans grand mal. On n'a qu'à renvoyer au débat des années 60 sur la normalisation des poids et dimensions en Europe. C'était simple en routier. On ne s'est même pas posé les mêmes questions en matière ferroviaire. Bon. Donc, il y a quand même un argument fort qui concerne l'exploitation, c'est de dire, bon, c'est pas la même chose d'exploiter des trains et a fortiori des wagons et d'exploiter des camions. Bon, ça s'optimise pas de la même façon dans l'espace, et l'espace est plus grand sur le plan routier. Il est aussi beaucoup plus proche des besoins, des implantations des gens, des zones de consommation et de production. Donc, on n'est pas à égalité de ce point de vue-là. Bon, c'est une évidence. Donc, la question de l'exploitation, elle doit aussi renvoyer à ce dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on transporte? C'est pas la même chose de transporter, Michel a 100% raison, transporter des trains de 1500 tonnes et de transporter des véhicules qui font 40 ou 44. Donc c'est pas la même chose. Donc comparer des coûts entre quoi et quoi? Transporter une caisse de boissons pétillantes à bouteille verte de Michel tout à l'heure ou en transporter des milliers de litres? De quoi parle-t-on? Et quand on compare les coûts en moyenne, on compare des choses qui n'ont rien à voir.
Cette question des coûts, on l'entend, elle est évidemment très compliquée. Et puis, il faut prendre en compte les externalités. Écoutons à ce propos le sociologue des transports, Marnix Dressen.
Maintenant, la question qui se pose, c'est voilà, est-ce qu'on peut argumenter en restant strictement à une politique gestionnaire, à une politique des comptes? Bien sûr, tout n'est pas possible. Bien sûr, on ne peut pas faire fonctionner des activités complètement à perte, surtout si elles rendent aucun service. Mais quand elles rendent des services à la société, et quand elles contribuent, par exemple, comme le fret ferroviaire, à moins dégrader l'environnement que ne le dégradent les transports routiers, est-ce qu'une logique purement comptable est acceptable? Ça, c'est quand même un vrai sujet, et dans lequel il n'est pas sûr que la SNCF soit la seule partie prenante qui soit légitime pour prendre position. Il semble que l'État, quand même, qui est chargé d'assurer au moins à moyen terme la survie de la société, pourrait se préoccuper de ça. Les routiers ne payent pas ce que les économistes appellent les externalités négatives, c'est-à-dire tous les dégâts qui sont produits, tous les effets néfastes pour la société. Alors bien sûr, on pense à la pollution, aux gaz à effet de serre, mais il faudrait parler aussi des accidents de la route. Il faut savoir, je crois, qu'aujourd'hui, la moitié des accidents du travail mortels sont des accidents de personnes qui sont sur les routes pour leur travail.
On ne prend pas assez en compte ce qu'on appelle les externalités négatives quand on compare les coûts du rail et de la route, Michel Savy.
Bon, alors, l'interview que vous venez de passer est intéressante, mais d'abord, malheureusement, le transport ferroviaire de marchandises n'est pas toujours si vertueux, notamment sur les petites lignes qui sont devenues un sujet politique passionnant pour les temps qui viennent, hein, qu'il ne faut pas négliger. Ce transport est souvent au gazole. En plus avec des moteurs très anciens qui polluent considérablement plus qu'un moteur de camion. Et quand vous transportez tellement de tonnes d'acier, de locomotives, de wagons pour transporter une tonne de marchandises, le ratio efficacité énergétique du rail par rapport à la route, malheureusement, n'est pas évident. Quand on est en électrique, comme en France, on a une électricité décarbonée, c'est tout autre chose. Mais tout le fret n'est pas électrique, loin s'en faut. Deuxièmement, il dit qu'il ne faut pas une approche comptable. Si ça veut dire une approche étroite, c'est pertinent. Mais l'État est comptable de l'argent des impôts bien dépensé. Et si pour économiser une tonne de CO2, ce qui est souhaitable, il faut dépenser en ferroviaire 10 fois plus qu'en isolation des logements, il faut mettre l'argent où il est le plus efficace. Donc l'argument, les coûts externes, il faut l'entendre. Mais si la SNCF et plus généralement le fret ferroviaire veut renaître uniquement par la pénalisation des modes concurrents, il est mort. Il faut qu'il invente un mode industriel ferroviaire pertinent au-delà de la taxation de ses concurrents.
Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous dites, Michel Savy, et notamment voilà, le fait que les crédits alloués à la transition énergétique n'iront pas forcément vers le fret ferroviaire. Alors, est-ce que ça veut dire que la question environnementale, ce n'est pas un bon moyen, finalement, de départager la route et le rail, Patrice Salini ?
Enfin, disons que ça pourrait, en rêvant un peu, ça pourrait aider les gens à se poser les problèmes de manière différente. C'est-à-dire que si on dit, bon, on a un système de transport, on a acheminé un certain nombre de milliards de tonnes kilomètres, comment on fait pour que ces milliards de tonnes kilomètres aient peut-être moins de CO2, moins de nuisances d'une manière générale, créent moins d'accidents, etc., etc. Si on se posait le problème comme ça, peut-être pourrait-on progresser. Mais la réponse, elle n'est pas modale. Elle est système. Quel système de transport on met en place pour répondre aux besoins de la nation, pour faire les choses simples, aux besoins de l'Europe, pour être un peu plus large. Ça, c'est la question de fond. Et pour revenir sur la question des coûts, quand on regarde ce qu'on facture aujourd'hui à un train de marchandises sur les réseaux européens et notamment sur le réseau français, c'est rien du tout par rapport au coût réel, par rapport au coût complet d'infrastructure. Mais c'est déjà très peu de choses par rapport au coût marginal, puisqu'on doit être autour de 60 à 70%, je crois que 68, les derniers chiffres. Donc, c'est extrêmement peu. C'est-à-dire que on dit que les routiers ne supportent pas la totalité des coûts, ça mérite une analyse de détail, c'est pas vrai sur tous les réseaux. Mais alors, pour le rail, c'est sûr, à tous les coûts, si je puis dire, ils ne supportent pas le coût d'infrastructure. Donc, si on veut remettre les choses à plat, sérieusement, en débattre, je crois qu'il faut qu'on mette tout sur la table, parce que cette non-prise en compte des coûts, ça aboutit à quoi au bout du compte ? Ça aboutit à des déficits et à une dette explosive qu'on a connue à SNCF Réseau. Parce que je voudrais quand même rappeler au passage qu'on s'est amusé à baisser de manière artificielle la valeur du patrimoine ferroviaire français au nom de l'application de normes comptables que nos voisins n'appliquent pas de la même façon. C'est-à-dire que le kilomètre de ligne allemand, le kilomètre de ligne italien, anglais et français ne sont pas évalués de la même façon, ce qui est quand même un problème aussi.
Ce qu'on entend bien, c'est que la question qui se pose derrière, c'est est-ce que c'est une nécessité de sauver le fret ferroviaire ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire ? Et alors, dans l'optique de l'après-essence pour les camions, le problème, c'est que le critère environnemental, s'il existait, est amené à disparaître. Alors, un moyen de départager les deux modes que sont le rail et la route, ça serait éventuellement la quantité d'énergie utilisée. On dit que le rail consomme largement l'énergie donc produite par le nucléaire en France et qu'il consomme 4 fois moins que les camions, Michel Savy.
Oui, il y a une efficacité. Faire rouler une roue d'acier sur un rail d'acier, c'est moins de frottement qu'une roue en caoutchouc sur une chaussée en bitume. Ça, c'est les lois de la physique. Donc, intrinsèquement, le chemin de fer est plus efficace du point de vue énergétique que la route. Mais il y a tous les autres coûts, notamment l'infrastructure, son entretien, l'amortissement du matériel. Un wagon français, il a un trafic efficace tous les 8, tous les 15 jours, parfois tous les 3 semaines. Les camions français, maintenant, roulent 15 heures par jour. Ils n'ont plus un seul chauffeur, les chauffeurs se relaient. Donc il y a une intensité d'utilisation du capital qui est beaucoup plus efficace que le ferroviaire. Donc il faut prendre en compte tous les coûts internes et externes. Alors pourquoi sauver le fret ferroviaire ? Pas seulement par nostalgie ou par amour du fer, mais parce que, pour ne prendre qu'un exemple, et quelle que soit la critique qu'on peut leur apporter, les prévisions du ministère des Transports à 2050, personne ne sait ce que sera 2050. Mais enfin, il faut bien avoir des ordres de grandeur. L'hypothèse centrale, après il y a des variantes, à la hausse, à la baisse, c'est plus 90% de fret en 2050 par rapport à 2012. Par où va passer ce fret ? Eh bien, je ne pense pas qu'on va doubler les autoroutes. Et on a des réserves de capacité sur le fleuve, sur le maritime côtier et sur un fer bien utilisé. Donc si on retrouve la capacité du fer, le fer doit contribuer à absorber ce fret de demain. Ne regardons pas le passé, regardons les besoins de l'avenir.
Un fer bien utilisé, dites-vous, Michel Savy. Alors justement, on va voir quelles sont les innovations que peuvent mettre en place le rail. Mais d'abord, ce qu'il faut dire dans cette concurrence entre le rail et la route dont on parle, que la route a, elle, aussi un grand potentiel d'innovation, peut-être même plus d'ailleurs. Et alors, quelles sont les technologies qui pourraient donner un avantage décisif au transport routier, Patrice Salini?
Le gros avantage aujourd'hui du système routier au sens large, mondial, c'est qu'il sait mobiliser, mettre en œuvre des innovations sans qu'on lui demande rien. C'est-à-dire que, en gros, les camions sont de plus en plus efficaces, on y met de plus en plus d'électronique sans avoir besoin de demander des aides publiques considérables. Mmh. On y fait des expérimentations concluantes en ce qui concerne la sécurité des véhicules, etc., etc. Donc, je veux dire, on est en face de potentialités considérables et tous les jours, on se rend compte qu'on peut améliorer à horizon relativement court l'efficacité du système.
Pour donner un peu des exemples, voilà, les poids lourds automatiques pourraient devenir une réalité assez rapidement.
Automatique, bon, pour avoir participé à un nombre de recherches sur le sujet, on se pose des questions sur quel est le meilleur automatisme, mais entre le poids lourd tout automatique, le poids lourd, je dirais, qui est semi-automatique, à quelques années de distance, ça peut améliorer considérablement les débits horaires des autoroutes, par exemple. On peut y dédier des voies aussi, c'est pas complètement impossible. Enfin bref, il y a toute une série de possibilités qui permettent grosso modo d'améliorer l'efficacité du système. Et puis il y a l'énergie. À partir du moment où vous dites on fait une vraie transition énergétique pour les poids lourds, eh ben on évacue complètement une des questions centrales, qui est celle des émissions de CO2 du système routier. Donc l'argument consistant à dire il faut développer le ferroviaire pour faire baisser les émissions de CO2 devient plus compliqué, parce que le ferroviaire, lui, il innove malheureusement beaucoup plus lentement. Il est peut-être imaginatif, mais la moindre idée met extrêmement longtemps à se mettre en œuvre dans ce système-là. Et c'est bien tout le problème aujourd'hui.
Alors justement, oui, si le rail veut survivre, il faut qu'il innove. Mais alors comment, et notamment comment est-ce qu'on peut accélérer la vitesse des trains? Parce que la vitesse, c'est évidemment l'élément central, Michel Savy.
Alors, il innove aussi pour une raison simple et qui n'est pas la faute ni des ingénieurs, des industries ferroviaires, ni des cheminots qui les exploitent. C'est qu'un camion, il est mort en 5 ans, pour faire simple. Donc l'innovation technique, elle est introduite de façon, comme on dit, incrémentale, c'est-à-dire permanente. On gagne 2% par an d'efficacité, de productivité, de qualité, de durabilité, que sais-je. Alors qu'une locomotive peut avoir 50 ans et continuer à rouler à peu près avec les mêmes conditions de travail pour le conducteur, les mêmes instruments, la même... Donc vous voyez que la technologie, du coup le progrès technologique dans le chemin de fer, il peut rentrer par bouffée. Le TGV, c'était une percée. C'était un bond en avant incontestable. Mais c'était un système entier. La ligne, l'alimentation, la rame, tout était nouveau et était innovant de façon disruptive, comme on dit aujourd'hui, d'un bloc. Mais améliorer le fret de marchandises, c'est hélas, inévitablement, quelque chose de beaucoup plus progressif et lent. Et je pense qu'il faut un pas en avant. Je pense que si on arrivait à industrialiser 2-3 grands corridors de fret intermodal sur le modèle américain, qui est plus puissant que l'européen, qui gagne de l'argent sans subvention, je crois qu'il y a des possibilités de progrès sont énormes.
Mais on retrouve l'une des idées que vous aviez commencé à avancer, Patrice Salini, qui est cette absence d'harmonie technique et réglementaire entre les différents réseaux ferroviaires européens, justement, contrairement aux États-Unis, à la Chine, à la Russie.
Oui, enfin, c'est plus simple aussi quand on n'a pas d'électricité, je veux dire.
Bon, et oui.
Hein, pas d'électricité, pas de tunnel. C'est beaucoup plus facile de faire rouler des trains. Si demain matin je m'amuse à mettre un train électrique avec des fils au-dessus, est évident que ça fait des normes en plus, ça fait des gabarits plus contraignants, etc. Il y a deux choses dans ce que dit Michel. Il y a une chose avec laquelle je suis 100% d'accord. C'est vrai qu'il faut mettre, à un moment donné, si on veut développer le fret ferroviaire, il faut prendre des initiatives, il faut mettre en place des solutions innovantes, il faut industrialiser. Sinon, ça ne marchera pas. Pour industrialiser, vous comprenez bien qu'il faut atteindre un certain nombre d'exigences en termes de capacité de transport, de fréquence, faute de quoi on captera rien du tout. Mmh. Quand on analyse la structure d'une demande de transport sur un axe, on se rend compte qu'il y a toute une série de transports à relativement courte distance ou moyenne distance qu'on n'arrivera jamais à capter si on ne change pas fondamentalement la façon dont les trains circulent, la façon dont on les charge et dont on les décharge. Donc là, il y a un enjeu de productivité. On peut éventuellement savoir faire. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Mais il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire, quand on parle de capacité, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir des sillons. Si on veut des sillons, ben, il faut peut-être chercher à les dédier au fret, etc.
C'est compliqué. Alors, n'allons pas trop vite. On va développer et aller un petit peu plus dans le détail de tous ces différentes techniques d'innovation dans un instant. Those women left behind, way back down the line, with their love unattended, given in at times undefended, when the nightly caress and the day's duress only gets blended, reality gets suspended. So herein lies the tale of their men who ride the rail, blood a boil and hearts on fire. Became a certain breed where the dangers forfeit heed, laying rail for the silver flyer. The line, dark and deep down the mine, with dusted lungs and soiled attire. That rock that allows the train to live, the notion's mad as a locomotive, busting it up now with the Molly Maguires. Pennsylvania coal to the Arizona copper soon, putting a motion in locomotion. What about the hellish heat? Where a drop of water tastes so sweet, digging rock while the sky's on fire. That stuff grown in stone, breaking machine, man's will and bone, to get the copper for just pennies, to get the copper for the wire. Ride the Rail de Giant Sand. Nous sommes toujours avec Patrice Salini et Michel Savy sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, et nous parlons de l'avenir du fret ferroviaire en France. Et il y a un point important sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de marchandises. C'était il y a 12 ans, mais alors est-ce qu'il a eu les effets escomptés, Michel Savy ?
Il a eu des effets importants, mais je ne pense pas que c'était les effets escomptés. Et on peut faire un bilan assez nuancé, dirais-je. L'effet brutal, c'est que en 12 ans, les nouveaux entrants, comme on les appelle, qui sont pas forcément des nouveaux, ça peut être une filiale française d'une entreprise ferroviaire étrangère, ont pris 40% du marché. Marché lui-même en déclin. Mais donc la SNCF a perdu plus du tiers, presque la moitié de son trafic, de son marché, de sa part de marché par rapport à ses concurrents. Mais en même temps, et contrairement à ce qu'on espérait, cette ouverture à la concurrence n'a pas réveillé l'innovation, la qualité, la baisse des coûts et des prix, au point que le trafic ferroviaire regagnerait au contraire au lieu de perdre.
Alors certains estiment que c'est grâce à cette ouverture que depuis 2015 ça s'est stabilisé.
Ou ça aurait été encore pire sans ouverture, on peut dire ça. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans le modèle allemand, où il n'y a pas 12 ou 15 concurrents, mais des 60 ou 120, je ne sais plus. Mais c'est une vieille tradition allemande où il y avait, malgré la Deutsche Bahn, par exemple, de grandes municipalités avaient tout un ensemble de services municipaux, dont du fret ferroviaire, de marchandises, qui viennent non pas concurrencer et ne sont pas vécus comme des ennemis, des concurrents du grand opérateur historique, mais des partenaires qui lui apportent du fret local, qui distribuent le fret local et qui alimentent le trafic de longue distance. Cette contradiction n'est pas résolue en France, où la SNCF, je crois, globalement, continue de considérer que ces nouveaux entrants sont des concurrents et non pas des partenaires.
On ne trouvera pas de salut du côté du privé, Patrice Salini?
On peut trouver le salut du côté du privé quand il innove plus que le public. Mais encore faudrait-il qu'il le fasse, qu'il le démontre. On a été très longtemps dans une logique d'écrémage dont je parlais tout à l'heure. C'est plus facile de rentrer sur un marché, de venir écrémer les meilleures lignes et de laisser le survivant s'occuper du reste. C'est comme ça que font tous les transporteurs quand ils s'implantent sur un marché. Regardez l'histoire des compagnies aériennes charter, par exemple, à un moment donné. Elles se sont implantées là où il y avait effectivement des espérances de revenus plus importantes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Il y avait peut-être des illusions. Mais encore une fois, on est dans des réseaux qui étaient des réseaux denses, maillés, avec des trafics qui vivaient une certaine péréquation financière, j'entends. C'est évident que si vous venez écrémer le meilleur, ça a des conséquences. Le pire, c'est que d'une certaine manière, la SNCF, à ce moment-là, s'est dit « Oh là là, il faut que je réduise mes coûts ». Donc je supprime un certain nombre d'offres, je réduis mes coûts. Dans le même temps, ils ont diminué la couverture de leurs charges fixes. Ce qui a entraîné une augmentation de leur déficit, ce qui a entraîné à nouveau une réduction de l'offre et une recherche diminution de coûts. On s'est retrouvé dans une logique qui n'est pas forcément la plus efficace, malheureusement.
Alors revenons aux différents moyens pour le rail de concurrencer la route. L'un des inconvénients du train, c'est le poids de la locomotive qui représente ce qu'on appelle un poids mort très important par rapport au poids utile de la marchandise. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut et est-ce qu'il faut supprimer les locomotives, Michel Savy?
Alors, qui va pousser les wagons, hein?
Avec cette idée d'une motorisation répartie, est-ce que ça, c'est une possibilité qui est vraiment envisageable?
Je ne suis pas l'ingénieur ferroviaire pour vous répondre. En tout cas, ça rendra difficile le morcellement. Si les wagons sont solidaires, on fera une rame comme un TGV. Un TGV, ce n'est pas des voitures indépendantes. Elles sont liées les unes aux autres. D'ailleurs, les bogies sont entre deux voitures successives, mais on perd en souplesse et en capacité d'adaptation de l'offre. Je n'ai pas entendu parler, en tout cas, d'utilisation de cette solution à grande échelle ailleurs qu'en France ou ailleurs dans le monde.
Alors il y a une
expérience japonaise, bon, qui n'est pas totalement répartie, mais qui est partiellement répartie.
Et puis une expérience japonaise, voilà.
Bon, ceci dit, pourquoi cette question est venue à l'ordre du jour? Il y a deux raisons. D'une part, parce que ça permet peut-être de voir autrement les contraintes de freinage, d'accélération, de pente.
L'objectif, c'est d'adapter en temps réel la distance de freinage entre deux trains,
oui,
par exemple.
Oui, et aussi parce qu'on monte mieux.
Qu'on
a une meilleure adhérence, qu'on décélère mieux, etc. Bon. Après, vieille idée aussi dans le monde ferroviaire, si on met de l'électronique dans les trains, alors la question, je dirais, de l'articulation des différents wagons les uns avec les autres change complètement. On n'est pas obligé d'avoir la locomotive qui tire les wagons, mais des wagons qui sont simplement connectés électroniquement et physiquement, mais peut-être seulement électroniquement, les uns avec les autres. Donc l'argument contre de tout à l'heure, il peut tomber dans ce cas-là. C'est-à-dire que si on a effectivement un petit peu d'imagination et de réflexion sur ce que peut être le train de demain, on ouvre des possibilités. Alors encore une fois, il faut le vouloir, il faut l'accepter, et il faudrait que le système de contrôle commande évolue de manière un peu plus rapide qu'il n'évolue actuellement. On est très en retard finalement par rapport aux objectifs qu'on avait et même par rapport à nos voisins dans certains cas.
Il y a un autre problème auquel il faut peut-être remédier, c'est les gares de fret en cul-de-sac qui imposent des échanges aux deux extrémités seulement et aussi peut-être la nécessité de réduire les temps de manutention pour que le ferroviaire soit plus compétitif. Ça fait partie aussi des pistes, Michel Savy?
Oui, mais là, vous voyez, on raisonne ferroviaire. Mais dans un transport intermodal rail-route, la part du ferroviaire dans le coût total et dans le prix est souvent, en général, inférieure à la moitié et parfois inférieure au tiers du coût total. Donc il faut aussi inclure dans l'optimisation les deux extrémités routières. Et là, ce n'est pas une question de technologie de camion. C'est une qualité de l'organisation, de la précision des rendez-vous, que le camion se présente à l'heure, que la marchandise soit disponible à l'heure et que le chantier de transfert soit efficace et rapide. Donc c'est encore une fois une optimisation de système.
Il y a cette idée aussi de désenclaver les ports pour que le fret ferroviaire et le fret maritime soient complémentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité, Patrice Saline ?
Je veux dire, c'est que historiquement, on n'a pas été bon. Enfin, faut être tout à fait clair. Je veux dire, la desserte ferroviaire de notre port est pas une grande réussite si on compare ça à un certain nombre de nos partenaires.
Bon. Et pourquoi cela ?
Mais parce qu'on n'a pas voulu le faire, parce qu'on n'a pas dépensé l'argent qu'il fallait pour le faire, parce qu'on n'y a pas mis les infrastructures, etc. Et parfois, on monte des systèmes qui sont pas très efficaces. Quoi. Je veux dire, je veux pas montrer du doigt tel ou tel port sur lequel j'ai pu me pencher, mais honnêtement, on pouvait faire beaucoup mieux, beaucoup moins cher, plus efficace, etc. Bon. Et je suis pas le seul à le penser, je veux dire, on a échangé à plusieurs sur ce genre de sujet. Donc on n'a pas forcément la bonne réponse, parce qu'on reproduit toujours le même système, c'est-à-dire ce système de terminaux en cul-de-sac, avec des faisceaux de main-d'œuvre, et finalement on se retrouve avec un système qui perd énormément de temps dans la gestion des flux. L'objectif, quand vous voyez qu'il arrive dans des ports modernes aujourd'hui, des bateaux qui peuvent faire 10 000 ou 20 000 boîtes, il est évident que manutentionner 2, 3, 4 fois la même boîte, faire transiter ça par un terminal en cul-de-sac, avec un faisceau de manœuvre derrière, etc. Avoir deux motorisations différentes pour trimballer ces marchandises, c'est pas forcément très efficace. Donc, moi, je plaide pour une réflexion un petit peu novatrice sur l'approche globale de ces chaînes de transport maritime, pour lesquelles, effectivement, on pourrait avoir des parts de marché infiniment plus importantes, mais il faut les infrastructures pour le faire. Mais je voudrais revenir sur un tout petit problème.
Je vous en prie.
Si on prend un axe, moi je me rappelle quand on avait étudié l'axe nord de la France-Espagne, on s'était rendu compte qu'on avait à peu près un tiers de trafic purement intérieur, on avait à l'époque un tiers de transit, ou à peu près, et le reste était d'international. Autrement dit, sur un axe sur lequel on voit tous les jours des dizaines de camions, il y a quand même un tiers d'intérieur et puis il y a du transit. Comment on fait pour essayer, si on a un objectif de report modal, comment on peut essayer de capter tout ça? Ben, on voit bien que c'est pas en faisant l'île en dail qu'on captera grand chose. Il va falloir être beaucoup plus malin. Il va falloir essayer de desservir des points intermédiaires. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Techniquement, on ne sait faire que du point à point à très longue distance.
Et alors, est-ce que cela passe par le fait de mélanger les trains de marchandises avec les trains de voyageurs, ou est-ce qu'il vaut mieux, selon vous, créer des voies spécifiques ?
Si on a des chantiers terminaux qui ne sont pas des cul-de-sac, et si on fait rouler les trains de marchandises à la même vitesse que les trains de voyageurs, franchement, rien ne s'oppose à ce qu'on les insère dans des circulations de voyageurs. Par contre, s'ils roulent lentement avec des trains de voyageurs qui roulent infiniment plus vite, ça ne marchera pas.
Parce qu'on cite souvent le système ferroviaire américain, qui lui a vraiment été pensé pour les marchandises, avec des trains de 2 km de long, Michel Savy.
Il n'a pas été pensé pour les marchandises, il a perdu les voyageurs. Enfin, ça aboutit au même. On a effectivement aux États-Unis un réseau qui est quasiment dédié au fret. Il y a quelques trains de banlieue autour des grandes agglomérations. Il y a le corridor entre New York et Washington et Boston. Mais à part ça, l'essentiel du réseau ferroviaire américain est devenu historiquement un réseau fret. Dans ces conditions, on peut rouler à 80 à l'heure sur une voie de très mauvaise qualité selon les standards européens. Mais c'est pas grave, c'est du fret. Et puis on s'arrête pas. Et puis on fait une productivité et on fait une qualité de service supérieure à la route. Mais effectivement, ils ont l'idée d'un réseau dédié est une bonne idée. Alors il ne faut pas la pousser à 100%. Je pense qu'on n'a pas les moyens ni les besoins d'un réseau dédié en France ou en Europe, mais qu'il y ait quelques itinéraires clairement, sinon dédiés du moins à priorité au fret, et qui suppose bien sûr qu'à côté, il y a des itinéraires parallèles dédiés aux voyageurs, ça facilite quand même considérablement. Le chemin de fer est terriblement sensible au mélange de trains lents et de trains rapides. Et donc si on les sépare, tout va beaucoup mieux des deux côtés.
Alors on a vu que la part du fret ferroviaire n'avait cessé de reculer depuis au moins 50 ans, et cela malgré la volonté politique affichée de soutenir le rail. En 1997, le gouvernement avait adopté l'objectif de doubler le trafic ferroviaire de fret. Même chose en 2007, le fret ferroviaire devait passer de 14 à 25% d'ici à 2022. Alors on a mal à imaginer comment on va atteindre 25% d'ici 4 ans, sachant qu'on est à peu près à 10%. C'était que de l'affichage finalement, Michel Savy ?
Oh, je ne vais pas chicaner les hommes politiques de l'époque pour leur reprocher d'avoir été exagérément optimistes. En tout cas, cette divergence entre l'affichage, comme vous dites, et la réalité, elle est également européenne. Livre blanc européen après livre blanc européen, on affiche les ambitions que les statistiques des années suivantes viennent démentir et de façon cruelle. Donc effectivement, il y a besoin d'une stratégie vraiment cohérente et qui se donne les moyens de ses ambitions.
Le problème, selon vous, Patrice Aligny, c'est que l'on ne cherche pas des solutions pour transformer véritablement le fret ferroviaire, mais qu'on se contente d'essayer de capter des marchés. En fait.
Ben, je ne sais même pas, d'ailleurs, si on essaie de capter des marchés, parce que j'ai encore eu des exemples, malheureusement je ne peux pas citer les noms, mais des exemples récents où un transporteur combiné m'a dit qu'on n'a même pas examiné une demande de sillon par manque de temps, soi-disant, sur un axe relativement important et international, qui plus est. Donc il y a aussi un problème de capacité à répondre à la demande, tout simplement. Bon. Ils ne sont pas seulement en train de chercher des clients. Hein. Je pense fondamentalement qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un système qui ne sait plus, alors moi j'ai des explications là-dessus, mais qui ne sait plus faire de propositions stratégiques et décliner derrière un programme à peu près cohérent, c'est-à-dire pragmatique d'une certaine manière pour répondre. Il s'est passé dans l'histoire française de l'innovation en matière de fret des choses assez curieuses. On avait à un moment donné, dans les réunions auxquelles on a pu participer, Michel et moi d'ailleurs, il y a des mots-clés qui revenaient souvent. Astré, je me souviens d'Astré, ça allait révolutionner le système ferroviaire français. Commutor, qui allait révolutionner le fret.
Et de quoi s'agissait-il ?
Commutor, c'était un système de tri automatique, de conteneurs, on va dire, et qui nous aurait permis de faire sur le sol national toute une série de petits hubs qui permettaient d'éviter de trier des wagons et de trier uniquement des boîtes. Bon, et théoriquement, ça devait aller très vite. Et on s'est dit, avec ce truc-là, on va révolutionner le système de transport.
Vous voulez dire qu'on en a fait beaucoup à chaque fois, qu'en réalité, ce n'était pas les innovations déterminantes.
Depuis qu'on a lancé l'idée de Commutor et qu'on a abandonné Commutor, et j'allais dire celui qui a décidé cet abandon est encore actif dans les réseaux internationaux, eh ben on fait plus rien, on ne sait plus, on n'ose plus innover. Et je crois que c'est aussi le problème, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette capacité d'imagination, de proposition pragmatique. Mais il y a plus grave, c'est-à-dire que il y a un moment donné, il y a une attente politique tellement forte pour des raisons diverses, peut-être historiques, etc. Il y a une attente politique tellement forte par rapport au fret ferroviaire et par rapport à cette question du report modal que on a envie d'annoncer de bonnes nouvelles, on a envie de faire valoir qu'il est possible de faire quelque chose, mais
on voit que ça n'habite
pas. Michel, pas plus que moi, n'a vu l'ombre d'un programme qui permette d'atteindre ses objectifs.
Michel Savy.
Mais justement. Il y a un défaut majeur. Je pense qu'on a, on a été élevé, si je puis dire, Michel et moi, à la planification. On a travaillé à l'époque du plan de développement économique et social. Et Michel, je me rappelle, la première fois que je l'ai rencontré, il me parlait de prospective. Bon, on ne fait plus de prospective, on ne fait plus de planification, on ne fait plus de programmation. Et effectivement, faire des annonces politiques sans planification, sans programmation, dans un secteur comme le ferroviaire, dont Michel a expliqué que les rapidités d'évolution sont relativement lentes, et ben c'est dangereux.
Beaucoup d'annonces,
et on crée du ressentiment.
Mais justement, je pense qu'il faut voir les choses autrement, sans se référer à ce passé glorieux qui est oublié. C'est comme le succès des TER en France, pour le transport régional de voyageurs, est venu du le moment où on a dit il faut une stratégie nationale, mais il faut aussi une stratégie décentralisée. Et c'est les régions qui se sont emparées du problème, qui ont mis beaucoup d'argent, peut-être trop d'ailleurs à leur goût aujourd'hui, mais qui ont identifié les besoins, trouvé les solutions, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, le fret ferroviaire, il naîtra d'une stratégie nationale, avec des moyens, avec des orientations, mais aussi qui s'appuiera sur les compétences des territoires, compétences économiques, politiques, d'infrastructures, et la mobilisation des acteurs économiques. Il faut faire de la couture, il faut faire de l'assemblage, il faut faire du jeu d'acteurs, il faut faire que des gens portent un projet patiemment d'un bout à l'autre en faisant sauter tous les petits obstacles qui suffisent à le bloquer. Et quand on aura fait se rencontrer une volonté générale, une orientation stratégique et les moyens et l'engagement des acteurs locaux à faire, on peut sortir, comme l'exemple régional des voyageurs nous en donne un exemple positif.
Alors l'une des options pour relancer le fret ferroviaire qui est souvent avancée, c'est cette question de la taxe sur les poids lourds. Alors est-elle possible? Est-elle souhaitable? On se souvient de l'abandon de l'écotaxe poids lourds en 2014, une décision que regrette encore le maire PS de Miramas, Frédéric Vigouroux.
Dans cette affaire, franchement, je suis très en colère. L'écotaxe, c'était la possibilité d'asseoir les investissements dans le temps, durablement, du ferroviaire. Et le non-équilibre entre les coûts de la route et les coûts du fer. On dit toujours que les routes coûtent moins cher par camion. En réalité, on ne prend pas toutes les charges. On ne prend pas tout ce que font les départements et les régions pour financer la rénovation des routes que les camions défoncent. Donc là, en l'occurrence, on avait la possibilité de rééquilibrer économiquement le prix du rail et le prix de la route et d'avoir une vraie concurrence qui permettait aux ferroviaires de devenir compétitifs pour les entreprises. Franchement, je regrette, et je l'ai dit à ce moment-là, d'avoir capitulé devant 1000 bonnets rouges qui cramaient tout sur leur passage.
Alors, le gouvernement sera en train de travailler sur une taxe poids lourd, c'est ce qu'avait annoncé Elisabeth Borne en mai dernier, et cela dans le but de financer la modernisation des infrastructures ferroviaires. Mais bon, dans le contexte actuel, reparler d'une taxe sur les poids lourds, ça paraît compliqué, Michel Savy.
Clairement, la ministre a dit qu'on renonçait à cette idée, sous la forme qu'elle prenait dans la loi d'orientation des mobilités. Je reviens sur l'abandon de l'écotaxe. Premièrement, elle n'était pas assez élevée, je dirais ça de façon provocante, mais si les transporteurs routiers l'avaient compris, ça devenait un avantage pour eux. Pourquoi ? Ils subissent la concurrence des transporteurs étrangers, qui par exemple font le plein de gazole en Luxembourg pour traverser entièrement le territoire français. Le Luxembourg, le pays le plus riche d'Europe, fait du dumping fiscal sur le carburant. Si on avait eu une écotaxe élevée et qu'on diminuait d'autant d'autres charges sur les transporteurs
routiers, la condition de baisser le taxe sur les carburants,
ça rapprochait les conditions de concurrence entre le pavillon français et le pavillon étranger. Par ailleurs, quand une loi est votée à la quasi-unanimité du Parlement, j'aime pas beaucoup quand on l'applique pas. C'est pas bon pour la démocratie.
Sur cette question d'une taxe sur les poids lourds, Patrice Salini.
Deux choses sur l'écotaxe et même sur le projet de vignette. Bon, moi, j'étais opposé à cette taxe pour plein de raisons, parce que je pensais qu'elle était inefficace et que tant qu'à mettre sur le tapis la question de la taxation routière, il fallait le faire globalement et pas avoir deux ou trois systèmes différents. On pouvait très bien essayer de réfléchir plus globalement et en tout cas pas de mettre en place un nouveau système dont le taux de rendement était ridicule.
Ça
coûtait extrêmement cher pour pas grand-chose. Entre parenthèses, on n'en parle plus. Ce qui prouve bien qu'il y a peut-être, au moment où on l'a lancé, une erreur de calcul, une erreur de réflexion. Je ferme ma parenthèse. Mais sur la question de la taxation, il faut voir à quoi ça sert une taxation. L'argumentaire numéro un des transporteurs, c'est de dire aujourd'hui, on a un niveau de taxation important, faisons le point. Voyons ce qu'on fait de l'argent, ce qu'on offre comme prestation, je dirais, à la collectivité avec cet argent, etc. etc. Si on va un peu plus loin, qu'est-ce que disent aujourd'hui les transporteurs ? Nous, on n'est pas contre la transition écologique, énergétique, etc. Qu'est-ce qu'on nous offre comme possibilité ? Est-ce qu'on a des solutions alternatives crédibles, etc. ? Qu'est-ce qu'on fabrique comme offre de transport ferroviaire ou comme offre de transport fluvial ? Et ils nous disent, rien.
Ça rejoint l'idée d'un manque de stratégie.
Ouais, alors ça renvoie à la question de la stratégie, ça renvoie à la question du jeu des acteurs, qui sont peut-être pas assez imaginatifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, ça renvoie aussi à une certaine représentation que peut avoir le monde politique de la réalité du marché des transports. L'instauration en Allemagne de la LKW-Maut, c'est-à-dire cette espèce de péage généralisé sur les routes allemandes, enfin presque toutes les routes importantes allemandes, ça a déplacé 0% du marché. Ça n'a pas eu d'impact sur le transport ferroviaire. Les enquêtes qui ont été menées à l'époque, immédiatement après, ont montré que les gens avaient plutôt tendance à s'échapper du réseau à péage que de se reporter sur le mode ferroviaire. Ce qu'il faut, c'est une offre. Il n'y a pas de concurrence sans offre.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission et je voudrais vous demander, pour conclure, s'il faut vraiment sauver le fret ferroviaire ou est-ce qu'il faut finalement peut-être le laisser mourir de sa belle mort. Vraiment, en quelques mots, Michel Savy, puis Patrice Salini.
En deux mots, il faut le sauver, mais pas pour lui permettre de survivre avec des injections périodiques de médicaments. Ça s'appelle l'acharnement thérapeutique. Il faut le sauver pour qu'il se développe avec un projet d'avenir.
Patrice Salini, en un mot.
Votre question est celle qui s'est posée plusieurs fois dans l'histoire. Et plusieurs fois, effectivement, on a tenté de sauver les choses avec des projets ou pas de projets.
Il faut moins sauver que réinventer.
Il faut à la fois rénover profondément, il faut réinventer, puis il faut avoir une approche beaucoup moins bureaucratique du transport. Je crois que c'est la réalité. Il faut écouter ce que les gens racontent sur le terrain en matière d'organisation concrète de transport tous les jours.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andra pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir sur une décision de justice importante dans le secteur du transport.
Mais oui, en revanche, il n'est point question ici de rails ni de signalisation, pas plus de locomotives ni de conteneurs. La décision délivrée hier par la Cour de cassation concerne des convoyeurs bien plus modestes, des transporteurs autonomes qui, sur leur bicyclette, livrent ici ou là collations et repas. Il faut donc se rapprocher et ralentir pour comprendre la petite révolution qui vient de se produire par cette décision de la plus haute juridiction française. Il faut même remonter le temps et se rappeler qu'en août 2016, la société de livraison de repas Take It Easy faisait faillite et laissait sur le carreau plus de 2500 livreurs en France. Tous ces livreurs étaient enregistrés comme auto-entrepreneurs et avaient signé un simple contrat de prestation de service. En clair, les livreurs se servaient de l'application proposée par Take It Easy, mais sans être salariés.
Un statut contesté par ces livreurs, estimant subir une forme de salariat déguisé.
Oui, l'un d'entre eux avait ainsi saisi les prud'hommes pour demander une requalification contractuelle avec Take It Easy, mais le conseil des prud'hommes et la cour d'appel s'étaient déclarés incompétents, estimant que le coursier n'était lié à la plateforme numérique par aucun lien d'exclusivité et qu'il restait libre chaque semaine de déterminer ses plages horaires. L'affaire a donc été transmise à la Cour de cassation qui a conclu, quant à elle, à l'existence d'un lien de subordination entre coursier et plateforme. La Cour a étayé son raisonnement en expliquant que le système de géolocalisation permettant de suivre le livreur en temps réel ainsi que l'existence d'un pouvoir de sanction ne permettait pas d'écarter la qualification de contrat de travail. Derrière le langage parfois cryptique de la Cour, il faut donc comprendre que ces contrats relèvent bel et bien d'une forme de salariat, avec tous les acquis et les conquis sociaux qui s'y rattachent, SMIC, congés payés ou encore indemnisation des arrêts maladie.
Des minima sociaux loin d'être respectés aujourd'hui chez les Deliveroo, Stuart et autres Uber Eats.
Oui, et surtout, ils semblent fondre comme neige au soleil dans une course effrénée vers plus de flexibilité et moins de sécurité pour les livreurs. Certains d'entre eux, assemblés dans un collectif dit des livreurs autonomes parisiens, le CLAP, racontent ainsi qu'ils ont vu s'envoler certaines primes versées en cas de travail le week-end, la nuit ou sous la pluie. Une précarisation encore aggravée par le passage à des contrats payés à la course plutôt qu'à l'heure. Imposé aux nouveaux entrants depuis 2016, ce mode de rémunération s'est généralisé depuis, faisant perdre 20 à 30% de leurs revenus aux anciens coursiers. Pour maintenir leur salaire, les livreurs sont obligés de multiplier les courses, quitte à se mettre parfois en danger. Les livreurs expliquent enfin que la liberté de choisir leurs courses est tout à fait relative. En dépit d'un discours de ces entreprises vantant les mérites de la flexibilité et de la liberté, les coureurs expliquent qu'il n'est pas rare que leurs contrats prennent fin s'ils multiplient les refus de commandes. Comme sur Airbnb ou Uber, ces plateformes dites du nouveau monde pénalisent les utilisateurs qui déclinent trop souvent la possibilité d'une transaction ou les formes subtiles et voilées d'un libéralisme vertical et autoritaire.
Les manifestations de coursiers se sont donc multipliées depuis cet été pour dénoncer justement des conditions de travail de plus en plus précaires.
Oui, du fait même de leur caractère mobile, insaisissable, ces travailleurs de la vitesse peinent à trouver des espaces, des moments pour s'organiser, s'insérer dans une lutte collective. Comme l'explique le secrétaire général du CLAP, c'est un métier de solitaire. Vous êtes tout seul sur votre vélo à faire des kilomètres et si vous ne le faites pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous remplacer. Autant dire que les plateformes ne tremblaient pas exactement devant leur mobilisation, une situation qui pourrait néanmoins changer avec la décision de la Cour de cassation qui fixe un précédent et devrait permettre une amélioration de leurs droits. Une victoire d'étape pour les cyclistes donc.
Merci beaucoup Patrice Salini et Michel Savy de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Patrice Salini, vous avez également publié cette année Transport, l'ivresse des grands projets d'infrastructure chez l'Armatan. Et je rappelle également votre livre Michel Savy, Le transport de marchandises aux presses polytechniques et universitaires romandes. Demain, c'est la pelote de laine du Brexit que l'on s'attachera à démêler. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous les coups.